Aujourd'hui, nous recevons dans BVSC donc Madame Nathalie Grosjean, instructrice de MBSR en anglais. Et mon Dieu, je me suis pas préparé. Mindfulness Based Stress Reduction.
Aurélia, ah, mais c'est moi. Saigne.
Aurélia, tu te moques de moi? Tu commences bien, toi, ton arrivée dans BVSC.
Aussi, donc bon.
Voilà, donc. Elle est également psychologue contemplative, je ne sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas,
on peut dire comme ça.
Je me suis permis. Mmh. Nous allons parler méditation, réduction de notre stress, bien-être, mais aussi travail social et l'intérêt de cette méthode, donc MBSR, dans notre domaine professionnel. On entend un peu partout dire qu'il faut être zen, relaxé, c'est une injonction qu'on entend partout. Les rayons des librairies sont remplis de ce genre de livres. Comment s'y retrouver et en quoi la pleine conscience MBSR se démarque-t-elle?
Alors c'est une bonne question. Je dirais qu'il y a deux approches pour moi essentielles. La première approche qui est une recherche d'un état particulier, on va rechercher la détente, on va rechercher le plaisir, un petit peu comme si on voulait se mettre ouvert pendant quelques temps. Et puis on va espérer que pendant ce moment-là, on va vivre du bon temps, on va être bien. Et puis l'approche de la pleine conscience, elle, qui est complètement opposée à cela, puisqu'on n'a pas de recherche particulière, mais on va plutôt vraiment accueillir toutes nos expériences, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres.
Mmh. C'est comme ça, ça a l'air idyllique, facile. Ma prochaine question, le programme se déroule sur 8 semaines. Comment se déroule-t-il et est-ce que c'est facile de méditer?
Alors, je dirais que c'est ni facile ni difficile. Par contre, ça demande de la volonté, ça c'est clair. Comme n'importe quel entraînement, la méditation, en fait, c'est un entraînement de l'esprit au même titre qu'on va faire un entraînement sportif. Donc si vous voulez courir un 100 mètres, il va falloir que vous puissiez vous exercer. De la même manière, on va s'exercer avec la méditation.
Donc on peut devenir un athlète de la méditation?
On peut devenir en tout cas plus familier avec son esprit, avec le fonctionnement du stress, avec le fonctionnement des émotions, etc. Ouais,
si voilà. J'ai bien compris, on ne gagne pas de médaille par contre dans méditation.
Je dirai quand l'épreuve olympique.
Tu te rends compte, il y a 200 personnes qui méditent au premier qui craque, je vois comment ça se passe. Le programme MBSR se fait donc en 8 semaines. On a souvent l'habitude de voir dans les livres qu'on a une méthode clé en main, qu'on a juste à lire, puis pouf, ça se termine. Là, non, c'est 8 semaines où il y a des retours, donc on revient vous voir. Comment ça se passe?
Alors en fait, déjà, c'est une méthode qui est complètement expérientielle. Donc ça veut dire qu'on va vivre la pleine conscience. Ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre dans un livre, même si, évidemment, le fait de lire, ça peut aussi nous permettre de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais pendant ces 8 semaines, en fait, on va s'entraîner. Donc on va se voir une fois par semaine, à raison de 2h30, 3h. On va faire des pratiques de méditation, mais aussi de mouvement en pleine conscience. On va avoir des échanges au sein du groupe pour comprendre un petit peu ce que vivent les autres et puis s'apercevoir, oh bah tiens, finalement, je ne suis pas la seule ou le seul à vivre ce genre de choses. Et puis, pendant ces 8 semaines, en fait, on s'engage à pratiquer en dehors des séances. Ça veut dire qu'on s'engage à pratiquer quotidiennement. Et au même titre qu'on va s'entraîner à la course de manière régulière, on va s'entraîner à la méditation et à la pleine conscience de manière régulière, de manière formelle et informelle.
Mmh. Formelle, informelle?
Alors formelle, ça va être, on va avoir des audios qui vont nous permettre de méditer, de faire du balayage corporel, des mouvements en pleine conscience. Et informelle, on va apprendre par exemple à se laver les dents en pleine conscience, à manger en pleine conscience, à prendre sa douche en pleine conscience. Hein. Généralement, quand on prend une douche, on a 50 personnes qui sont avec nous dans la douche, hein, parce qu'on est en train de penser à des tas de choses. On n'est pas vraiment en contact avec la chaleur de l'eau, la fraîcheur de l'eau, le mouvement de l'eau qui glisse sur notre peau. Donc voilà, on va développer un petit peu tout ça.
Et en 8 semaines, à la fin, on finit, paf, on est un maître zen. Comment ça se passe? Parce que si c'est ça, je pense qu'on va tous y aller. Hein.
Alors, non, on n'est pas un maître zen. Parce qu'en plus, dans la pleine conscience, on va développer une qualité qui s'appelle la qualité du débutant. C'est-à-dire qu'à chaque instant, en fait, on va redevenir en pleine conscience. C'est vraiment quelque chose qui se cultive d'instant en instant. Mais par contre, au bout de 8 semaines... on va déjà avoir une meilleure compréhension de nos fonctionnements, de nos fonctionnements émotionnels, de nos fonctionnements mentaux. de faire le lien entre le mental et le physique. Et puis, on va développer en fait des comportements qui vont tout simplement nous permettre d'être plus sereins pour faire face à ce que la vie nous donne à vivre, en fait.
Voilà. J'entends beaucoup parler de concepts sur l'émotion, sur à l'origine, vous nous parlez de méditation, donc s'il y a aussi des apports théoriques qu'il faut apprendre.
Apprendre, non, mais pendant ces 8 semaines, en fait, on va toucher des choses, en fait, par l'expérientiel, et du coup, on va toucher des choses un peu plus pédagogiques, comme la physiologie du stress, les perceptions, les schémas de communication, enfin voilà, ce genre de choses.
Et cette méthode, elle a été inventée quand, par qui? Est-ce que c'est quelqu'un, nobody, qui un jour a vécu quelque chose et puis pouf? Parce qu'on en trouve pas mal hein, quand même. Hein.
Bon, il faut dire déjà que la méditation existe depuis plusieurs milliers d'années, hein, dans différentes traditions. Mais la MBSR, si on parle du programme MBSR en 8 semaines, ça a été développé en 79 par le docteur John Kabat-Zinn. Qui était professeur à l'université du Massachusetts et qui a développé la première clinique de réduction du stress.
Qui existe toujours ?
Qui existe toujours. Et puis aujourd'hui, il y a plus de 60 000 personnes qui ont suivi en fait ce programme qu'on appelle aussi protocole. Et puis aujourd'hui, la MBSR est développée dans différentes sphères de la société. Donc évidemment dans le soin, dans la santé, mais également dans l'éducation, dans l'entreprise, dans le cadre par exemple des risques psychosociaux, du développement d'un management plus conscient. Dans le milieu carcéral et puis pour tout un chacun qui a envie en fait de comprendre comment fonctionne le stress, comment fonctionnent les émotions, d'avoir une communication plus consciente, bienveillante, etc.
Comme on peut l'avoir là, maintenant, hein, se regarder dans les yeux, auditeurs, nous regarder avec vos oreilles, Luna se cache. est-ce que tout le monde peut suivre ce programme ou il y a des contre-indications? Si vous avez parlé de mouvement, pour Luna par exemple, je sais que le sport ça lui fait peur, donc...
Quoi?
Rassurez nos auditeurs.
Ah, mais bon, l'e-sport j'aime bien, hein, tout est relatif.
Je dirais que quasiment tout le monde de 3 à 103 ans peut pratiquer la pleine conscience. Maintenant, c'est déconseillé dans le cas de burn-out ou de dépression en phase aiguë, dans le cas de troubles psychotiques, de troubles bipolaires qui ne sont pas stabilisés. Tout simplement parce que, comme on va entraîner son attention, dans ces cas-là, c'est très très difficile et ce serait contre-productif en fait pour les personnes.
En quoi la pleine conscience pour les travailleurs sociaux, donc, vous en avez parlé, qu'elle est présente dans les milieux carcérales. Je ne sais pas si en France c'est le cas, je sais qu'aux États-Unis oui.
Alors moi j'ai des amis qui en France, oui, ont mené la pleine conscience dans certaines prisons, notamment des prisons parisiennes.
D'accord, donc c'est déjà peut-être plus ancré sur le sol français qu'on ne le pense.
Oui, il y a plusieurs écoles, universités...
Paris. Est-ce que ça aurait un lien avec la justice restaurative ou pas du tout? Je ne sais pas si vous connaissez déjà
je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas, la pleine conscience peut vraiment aider à déjà avoir une vision de la personne qui va être différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas réduire la personne à un acte, mais on va voir la personne dans sa globalité. Et puis, pour la personne qui est incarcérée, la pleine conscience peut vraiment... lui permettre de prendre conscience, en fait, de ce qui s'est passé, de pourquoi ça s'est passé, et de prendre conscience des choix qui s'offrent à nous et des manières d'être peut-être différentes dans les cas de stress, dans des cas d'agressivité, etc. etc.
Et donc, nous, futurs travailleurs sociaux et travailleurs sociaux, parce que nous avons Aurélia qui est la seule diplômée ici, hein, voilà, c'est... Tu es un petit peu notre maman, je crois, ce soir. Je suis désolé. On ne dira pas ton âge. Voilà.
Devinez-le.
Je
ne l'ai fait pas.
Non, chers auditeurs, je peux vous dire qu'elle ne l'a fait pas.
C'était pas une blague. Non, mais vraiment.
Donc, en tant que futur ou travailleur sociaux, qu'est-ce que peut nous apporter, nous, la MBSR, dans notre profession au quotidien?
Alors la chose la plus importante, je dirais que je pense qu'au quotidien, vous pouvez être en relation avec des personnes qui sont en grande souffrance. Et puis, y a un phénomène naturel qui s'appelle l'empathie, qui est prouvé scientifiquement par les neurones miroirs. et qui vont montrer, par exemple, que si je me coupe et que vous êtes en face de moi, va s'activer dans votre cerveau la même zone que dans mon cerveau. Et donc, de ce fait, quand on est face à la souffrance de l'autre, on va soi-même, en fait, rentrer en résonance avec cette souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre la même chose, mais en tout cas, il va se passer quelque chose à l'intérieur de nous. Et puis, ça va générer des émotions. Et puis, en tant que travailleur social, on peut avoir différentes approches face à ça. C'est-à-dire, la première, ça va être se couper. Je me coupe des émotions parce que c'est trop difficile et du coup, je me coupe de moi-même et je me coupe également des autres.
On dit souvent blindé dans notre métier, on se blinde.
Voilà, on se blinde, on met comme si on crée une séparation entre soi et l'autre. La deuxième approche, ça va être d'être une éponge et de se laisser quelque part envahir par l'émotion et par la souffrance de l'autre. Et en fait, la pleine conscience va nous permettre de comprendre ce mécanisme empathique, de comprendre ce qui se passe et puis de faire la part des choses entre ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre et ce qui appartient à la relation. Et de ce fait, on va apprendre petit à petit en fait, à pouvoir garder... Moi, je reçois des personnes en individuel. Et généralement, quand elles viennent me voir, c'est qu'elles ont des souffrances. Et donc, ça permet tout simplement de garder le cœur ouvert, de rester pleinement en contact avec la personne, mais sans se laisser envahir, sans partir dans un burn-out, etc. Donc la pleine conscience, dans ce sens-là, je trouvais vraiment très très utile dans le cadre, pour les travailleurs sociaux, mais également pour des profs ou des instits qui sont face à des élèves qui sont eux-mêmes en souffrance, etc.
On pourra bientôt en témoigner, notamment avec Marie à la régie, parce que Madame Grosjean viendra faire deux jours d'intervention à l'IRTS pour justement traiter de ces sujets. Donc on vous fera certainement un retour pour vous expliquer comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a pu en apprendre, où en sortir, nous.
Et ce serait quand, ça?
Fin avril, la semaine du 23 avril.
Ok.
Merci, tu m'as sauvé. Pour revenir un petit peu à tous nos auditeurs, parce qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément dans ce domaine et qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous donner des ouvrages pour peut-être commencer à approcher ces notions?
Alors, évidemment, tous les livres de Jon Kabat-Zinn, mais il y a aussi des livres de Christophe André.
C'est la même chose?
C'est de la pleine conscience. D'accord. C'est vraiment de la pleine conscience. La MBSR est vraiment basée sur la pleine conscience. Donc oui, tout ça, c'est la même chose, en fait.
Il n'y en a pas un mieux que l'autre?
Non, parce que je dirais que en fonction des personnes, on va être attiré plus par cette manière de présenter la pleine conscience. Parce que quand on parle de pleine conscience aussi, c'est pas quelque chose de froid. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pleine conscience sans plein cœur. C'est ce que dit Jon Kabat-Zinn. Hein. Donc, la pleine conscience, c'est une manière aussi d'ouvrir le cœur.
Voilà. J'en profite pour poser juste une dernière question à titre personnel, et je me dépêche, Luna, promis. Est-ce qu'on peut, du coup, se laisser inspirer aussi par les lectures de Eckhart Tolle? Je sais que ce n'est pas forcément de la méditation de pleine conscience, mais quand même, est-ce que
complètement,
ça marche?
Le pouvoir du moment présent, tout à fait, oui.
Super. Bon, alors c'est déjà en route.
Merci pour cette interview.
Merci à vous.
De choc.
Merci.
Minasan konbanwa. Radio Campus 102.4 Buena Vista de Social Campus.
Eh ben, on vient d'écouter une super interview de Nathalie Grosjean. Je pense qu'on peut peut-être en échanger. Je sais pas si vous, ça vous a posé des questions. En tout cas,
j'ai vu que ça a crayonné pendant l'interview.
Un petit peu, ouais.
Moi aussi, j'ai crayonné pour me souvenir de ce que je voulais dire.
Vous parliez en fait donc de l'importation en milieu carcéral en France. Est-ce que vous avez connaissance des premiers résultats par rapport à ça, justement?
Non, malheureusement, non. Non.
C'est trop frais encore ou...
C'est pas que c'est trop frais, c'est tout simplement je m'y suis pas vraiment intéressée. Donc mais c'est une bonne question, merci.
Moi je me questionnais par rapport à l'âge, vous parliez de 3 ans à 103 ans. Et donc est-ce que vous travaillez avec les jeunes enfants?
Oui, parce que pour venir avec leur petite voiture, monter les escaliers, vous poser des questions, c'est un peu compliqué.
Non, il y a vraiment... alors moi, pour l'instant, j'ai à cœur de pouvoir travailler avec des enfants, des ados et des jeunes adultes. Mais il y a déjà beaucoup d'expériences qui ont lieu en France, dans des écoles. Je suis en contact avec des écoles aussi aujourd'hui, donc je ne vais pas trop en parler parce que ce n'est pas fait. Mais voilà, donc les enseignants se forment à la pleine conscience et puis amènent en fait des petits exercices de pleine conscience pour des bouts de choux de 3 ans, de 6 ans, de 10 ans. Donc ça existe déjà, absolument. Ouais.
Sans chercher à avoir des détails, c'est des écoles publiques ou privées, ou on peut en savoir un peu plus, des écoles Montessori ou...
Alors, je ne sais pas s'il y a des écoles Montessori, mais en tout cas, je peux vous dire que moi, je suis en contact avec des écoles privées, mais il y a des écoles publiques qui sont vraiment intéressées par ce genre d'approche, parce que ça permet vraiment à l'enfant ou aux étudiants de développer l'attention, la concentration, mais également la bienveillance, le travail de groupe, tout ça, donc oui.
Moi, du coup, ça me pose la question quand même. C'est donc possible de méditer en groupe, d'être en pleine conscience, même s'il y a d'autres personnes autour qui ne sont pas forcément impliquées pareil, ou... C'est possible de méditer en groupe.
Non seulement c'est possible de méditer en groupe, mais c'est surtout possible d'être en pleine conscience à chaque instant de sa vie. Donc, on n'a pas besoin d'être assis sur un coussin, on n'a pas besoin d'allumer un encens. Non, on peut vraiment, là, alors que je vous parle, je peux être pleinement consciente de ce que je vis à l'intérieur de mon corps, de savoir s'il y a une émotion, et puis de savoir si mon esprit est vraiment présent ou si je suis en train de me raconter des choses alors que je suis en train de vous parler.
Parce que oui, je me demandais si la présence des autres ne pouvait pas perturber cet état de méditation.
Ça peut perturber, le bruit peut perturber, et en même temps, on apprend à travailler, à accueillir tout ce qui est là. Donc, voilà.
D'accord.
Une dernière petite question, j'ai envie de donner ça, j'ai envie de dire aux auditeurs, est-ce que vous avez un conseil, un truc pour essayer, tout le monde ne viendra peut-être pas sonner à votre porte ou lire Jon Kabat-Zinn, donc peut-être une petite astuce, pardon du terme, pour faire redescendre un peu la pression. Là.
Est-ce que deux, c'est possible?
Allez.
Non, la première c'est vraiment essayer de faire qu'une chose à la fois, c'est-à-dire être pleinement... faire pleinement ce qu'on est en train de faire.
Donc éviter de faire la vaisselle, regarder un documentaire puis caresser le chat.
Voilà, par exemple. Ou alors faire les trois choses de manière pleinement consciente et ça va être un peu difficile. Et la deuxième chose, c'est quand on voit que voilà, y a une émotion forte qui monte, tout simplement essayer de revenir au corps, revenir au souffle, revenir au contact des pieds sur le sol, revenir aux sons qui sont autour de nous. Voilà.
Ça fait beaucoup de choses, au corps, au son...
Non, on peut choisir. Oui.
D'accord.
Le souffle n'est pas toujours une bonne chose pour certaines personnes. Voilà. Donc,
Ah oui, certaines personnes préfèrent...
Pour certaines personnes, porter son attention sur le souffle, ça va être difficile parce que ça peut les stresser davantage. Donc on va plutôt les inviter à porter l'attention sur le contact des pieds avec le sol, par exemple.
D'accord. Eh bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous
d'être venu.
Merci beaucoup de votre invitation.
Au micro de Radio Campus pour BVSC.